VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le président Donald Trump reçoit aujourd'hui à Washington le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui vient chercher le soutien des États-Unis à un projet de Moscou censé faire baisser les violences en Syrie. L'entretien dans le bureau ovale à 14h30 temps universel sera la première rencontre du nouveau locataire de la Maison-Blanche avec un haut responsable russe, alors que les relations entre les deux puissances sont exécrables et que le climat politique à Washington est explosif. Sergueï Lavrov sera d'abord reçu par son homologue américain Rex Tillerson au lendemain du limogeage choc de James Comey, le patron du FBI et la police fédérale américaine, dont les services enquêtent sur une éventuelle collusion entre l'entourage de Donald Trump et la Russie durant la campagne présidentielle de 2016. Dans sa lettre de révocation de James Comey, avec effet immédiat, le président Trump accuse l'ex-directeur de ne pas être capable de diriger le FBI de manière efficace. De façon générale, les parlementaires républicains approuvent la décision du chef de l'exécutif, mais leurs collègues démocrates sont plutôt contre le limogeage de James Comey. Jean-Roger Bion.
Les raisons de son limogeage ont été données dans deux lettres séparées du ministre de la Justice Jeff Sessions et de son adjoint Rod Rosenstein. En substance, ils accusent M. Comey d'avoir commis de sérieuses erreurs dans la manière dont il a traité les conclusions de l'enquête sur les emails privés de Hillary Clinton, l'adversaire démocrate de M. Trump lors de la présidentielle de novembre dernier. En d'autres termes, et selon M. Rosenstein, l'ex-directeur du FBI avait usurpé les pouvoirs de la ministre de la Justice quand M. Comey a conclu que Mme Clinton n'allait pas être poursuivie en justice. Les observateurs se demandent pourquoi le président Trump a décidé de ne sévir que maintenant, alors que les reproches faits à M. Comey remontent à la campagne de l'année dernière. La décision de M. Trump a surpris plus d'un à Washington et au Congrès. Le républicain Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, s'est dit troublé par le moment choisi et les raisons données pour le limogeage de M. Comey, qualifiant son départ de perte pour le FBI et la nation. Côté démocrate, des membres de la commission judiciaire ont fait allusion à l'ancien président Richard Nixon, qui dans les années 70 avait limogé des officiels qui enquêtaient sur lui pendant le scandale du Watergate. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré avoir dit au président qu'il commettait une grosse erreur en limogeant M. Comey, alors qu'il y a différentes enquêtes liées à la campagne de M. Trump.
Relations entre les États-Unis et le monde musulman, le roi Abdallah II de Jordanie, le souverain marocain Mohamed VI, le président algérien Abdelaziz Bouteflika et son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, figurent parmi de nombreux chefs d'État invités par le roi Salman d'Arabie Saoudite à participer à un sommet avec le président américain Donald Trump. Le sommet islamo-américain doit se tenir lors de la visite de M. Trump en Arabie Saoudite les 20 et 21 mai, selon les responsables saoudien. Souvent accusé d'attiser l'islamophobie, le président américain aura l'occasion durant ce sommet de préciser sa politique à l'égard du monde musulman.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gabon, initialement prévu ce mercredi 10 mai, la fin du dialogue politique censé sortir le pays de sa crise post-électorale a été reportée de 15 jours, ont annoncé ses organisateurs dans un communiqué aujourd'hui. Cette clôture pourrait intervenir le 25 mai, soulignent les organisateurs en attribuant le nouveau délai à la recherche du consensus sur les questions essentielles comme la réforme des institutions et le redécoupage électoral. Le dialogue politique inclusif et sans tabou avait été lancé le 28 mars par le président Ali Bongo Ondimba pour tenter de surmonter la crise née de sa réélection contestée à l'issue du scrutin à un tour du 27 août 2016. Une cinquantaine de partis politiques y participent, mais le forum est boycotté par le principal rival du chef de l'État, à savoir Jean Ping, qui continue de se proclamer président élu. Pourtant, plusieurs membres de l'Union nationale, une des forces de la coalition pour la Nouvelle République soutenant M. Ping, ont rejoint à titre individuel le dialogue politique ces derniers jours. En RCA, un casque bleu marocain est toujours porté disparu ce mercredi dans le sud-est du pays après l'attaque d'un convoi de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place par un groupe armé lundi soir qui a coûté la vie à 4 Cambodgiens, dont 3 sauvagement assassinés, selon le directeur de la communication de la mission onusienne, Hervé Verroussel. Un groupe de civils centrafricains est actuellement en négociation avec les assaillants pour retrouver le soldat marocain disparu après l'attaque du convoi à 470 km à l'est de Bangui, près de la frontière avec la RDC, a indiqué la MINUSCA à l'AFP. Les 3 casques bleus cambodgiens mentionnés par Hervé Verroussel ce mercredi avaient été appréhendés par les assaillants lors de l'attaque et ils ont été retrouvés morts par la suite, a souligné la MINUSCA. En RDC, la formation d'un nouveau gouvernement mardi sans la plateforme de rassemblement d'opposition dirigée par Félix Tshisekedi a raidi les positions déjà tranchées sur la crise politique dans le pays. La coalition des Congolais pour la transition, par exemple, ne se reconnaît pas dans le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala. Son président, Emery Damien Kalouira, réclame une transition. On l'écoute.
Les Congolais n'ont pas besoin de voir M. Kabila se soumettre à un spectacle de gouvernement qui ne dure pas. Vous voyez celui de Badibang qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre de corruption de masse en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Cameroun, le cinéma national se cherche en raison de l'inexistence de salles de cinéma. Mais une structure locale, Cinéma Numérique Ambulant, vient d'innover en primant 4 œuvres cinématographiques camerounaises plébiscitées lors de projections publiques. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
Sous les ovations des maigres publics, le lauréat reçoit des mains du chef de la mission de l'Union européenne au Cameroun le prix du jour. Nous sommes dans la petite salle de projection de l'Institut français de Yaoundé. La fiction camerounaise État civil de Cyril Masso, ainsi récompensée, est pourtant un véritable plaidoyer pour l'enregistrement dès la naissance des enfants au Cameroun dans les registres d'état civil. C'est l'association Cinéma Numérique Ambulant Cameroun qui a fait connaître cette fiction dans les quartiers et villages du Cameroun, comme avec les 3 autres productions camerounaises récompensées au cours de la même cérémonie. Stéphanie Dogmo, présidente de Cinéma Numérique Ambulant.
Il y a des très bons films camerounais que le commun des Camerounais ne connaissent pas parce que ce sont des films qui ne sont pas accessibles du tout. Depuis 2012, nous avons diffusé jusqu'ici presque 300 films, près de 700 projections cinématographiques, plus de 250 000 spectateurs.
La diffusion des films camerounais au Cameroun est toute une problématique. Elle dépasse largement le cadre de l'inexistence des salles de cinéma. Olivier Franck Demba, directeur du Festival des courts-métrages Yaoundé, tout court, explique.
Aujourd'hui, il faut nécessairement avoir des visas d'exploitation. Et maintenant, les films que l'on choisit doivent respecter une thématique. En dehors de la thématique, il faut maintenant avoir des films qui ne sont pas contre le système en place. Et pour la liberté d'expression, pour la liberté de créativité, nous, les organisateurs des festivals, c'est extrêmement difficile. C'est un combat permanent tous les ans.
À cela, ça ajoutent les pesanteurs techniques et financiers qui plombent la diffusion des films camerounais. Blaise Pascal Tanguy est un jeune réalisateur camerounais qui réside en France. Son documentaire sur les métiers de la rue au Cameroun a été projeté dans 53 localités grâce à Cinéma Numérique Ambulant.
On n'a pas de technicien vraiment formé. Quand vous regardez à l'écran nos documentaires, et que vous regardez un documentaire produit par Planète, il y a un grand fossé au niveau de la qualité. Nos gens n'ont pas encore compris que le cinéma a une place de choix et que la culture permet vraiment de vendre l'image d'un pays.
Le marché de la diffusion des films camerounais est sans opérateur. La dernière salle de cinéma a fermé en 2009. Pour faire connaître leurs œuvres au grand public, les réalisateurs camerounais se tournent vers l'Institut français Laure Dominguel, animatrice culturelle à l'Institut français à Yaoundé.
Comme on n'a pas de distributeur camerounais, la difficulté c'est de trouver ces réalisateurs-là. La plupart viennent me proposer des productions. Si le thème film est pertinent, si le film voilà, est une réalisation pertinente également, eh bien il a tout à fait sa place à l'Institut français.
L'horizon s'annonce encore plus sombre dans la diffusion des films camerounais au Cameroun, le gouvernement n'ayant pas en vue de construire d'aussitôt des salles de cinéma. Yaoundé, Emmanuel Jolutap, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.